Vous aurez 3 minutes, 2000 ans d'histoire avec Patrice Gélinet, c'est maintenant, bonjour.
Bonjour Laetitia et bonjour à tous, aujourd'hui avec Michel Vinoc, la France et les Juifs depuis 1945.
Agresser la communauté juive, c'est agresser la France, c'est agresser les valeurs de notre République qui ne peuvent laisser aucune place à l'antisémitisme, au racisme et à la xénophobie.
D'histoire. Le 21 juillet 2002, sur le site de l'ancien Veldiv, à l'endroit même où 60 ans plus tôt, 13 000 juifs avaient été parqués avant d'être envoyés vers les camps d'extermination, Jean-Pierre Raffarin, on vient de l'entendre, condamnait les agressions antisémites dont la multiplication depuis quelques années nous rappelle quelques-uns des pires moments de notre histoire. On aurait pu croire qu'après la Shoah, l'antisémitisme aurait disparu définitivement du pays qui, en 1791, avait été le premier en Europe à faire des juifs des citoyens à part entière. Bien sûr, il y eut depuis l'affaire Dreyfus et la complicité du régime de Vichy dans l'extermination des juifs, mais depuis la guerre et jusqu'à la fin des années 1990, le racisme honteux d'une poignée de nostalgiques n'avait guère de succès dans un pays qui, il y a 50 ans, le jour de la capitulation allemande, commençait à découvrir la réalité du nazisme.
On va pas y rentrer hier soir. T'es contente?
Ah ben, voulez-vous, on est bien content.
Bah, on est ému, même. Vous êtes très ému, je vois.
Je m'en fous encore.
Il reviendra,
monsieur, certainement. Et bientôt, je vous assure, maintenant la guerre est finie et tous les hommes qui sont là-bas vont venir très vite, je vous assure, très vite.
Eh bien, mon petit.
Ne pleure pas. Il va revenir bientôt.
Courage, vous savez, tout le monde reviendra bientôt.
Et voici maintenant une petite fille qui est montée à côté de moi sur la table d'où je domine la foule qui est assemblée autour de nous. Et quel âge as-tu, ma petite fille?
2 ans et demi.
Et tu as un papa, bien entendu.
Oui, il est rentré hier matin.
Eh bien, enfin, tu vas chanter la Marseillaise et tout le monde va reprendre en cœur la Marseillaise qui va être chantée par la petite fille du déporté Raffaillère. Allez, vas-y,
pour nous pousser. Les enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé.
Michel Vinoc, bonjour.
Bonjour.
C'était Paris le 8 mai 1945, le jour de la capitulation allemande, alors que tous les Français n'étaient pas encore, tous ceux qui étaient en Allemagne n'étaient pas encore rentrés en France, et parmi eux, 97% des juifs déportés qui ne sont pas français, qui ne sont pas revenus. Mais à l'époque, vous le rappelez dans un livre, la France et les juifs, on ne faisait pas la différence, en fait, entre les prisonniers de guerre et les déportés, ni même entre les déportés politiques et les juifs. La spécificité du drame qu'avait vécu, de la tragédie qu'avait vécu les juifs, ben on l'ignorait. Finalement, c'est un peu le début d'une occultation qui a duré longtemps.
Oui, c'est exact. Et cela pour plusieurs raisons. D'abord, il y a dans cette France d'après la guerre une volonté politique, celle du général de Gaulle, mais pas seulement la sienne, de refaire l'unité nationale. Une unité nationale qui avait cessé d'exister depuis longtemps, et notamment à cause du régime de Vichy. La guerre s'est terminée par une quasi-guerre civile, il ne faut pas l'oublier, quand la milice tirait sur les résistants. Enfin, bref, il fallait recomposer la nation. Et par conséquent, ne pas faire de distinction. Il y avait eu l'immense majorité des Français favorables à la France libre, à Vichy, puis une poignée de traîtres, de collaborateurs, et cette image-là s'est imposée.
Mais il y avait aussi, vous le dites, les communistes, il y avait même le CRIF qui venait d'être créé, qui ne souhaitait pas qu'on distingue,
alors, il y avait
les
communistes,
les juifs de la communauté
d'abord
nationale.
D'abord les communistes qui sont très puissants à l'époque, qui ne veulent pas distinguer parmi les victimes du nazisme. C'est pas l'ennemi vaincu, c'est le fascisme, nazi, et par conséquent ne distingue pas entre les résistants, les juifs et les autres. Et puis enfin, les juifs eux-mêmes, que l'on avait distingué de quelle manière horrible, d'abord avec le port de l'étoile jaune, puis ensuite par la déportation et l'extermination, ne tenait pas à être encore distingué, à être séparé du reste de la communauté nationale, et par conséquent, eux aussi participaient, tout en sachant parfaitement ce qui s'était passé, à cette espèce d'unanimité. Alors, cela dit, Michel Vinocle, évidemment, il n'est plus question d'antisémitisme après la guerre. Et si il existe encore, vous le dites, un antisémitisme latent, un peu honteux, qui s'exprime par des détours de langage, le racisme en général, et là, vous citez un sondage très intéressant, 66, ne se porte plus contre les Juifs. Les Juifs arrivent assez loin derrière d'autres catégories, d'autres Français. À la question de ce sondage, pour chacune de ces catégories de personnes, dites-moi si vous trouvez qu'elles sont trop nombreuses en France. Eh bien, pour 62% des Français, ce sont les Nord-Africains. Pour 27% les Espagnols. Hein, pour 18% les gens d'origine d'Afrique noire. Et les Juifs en quatrième position à 13% seulement. Donc oui. Le racisme n'est plus, enfin, est moins antisémite qu'il ne l'était avant.
C'est indiscutable et on a observé depuis 1945... une régression très sensible, je ne dis pas du racisme ou de l'antisémitisme, mais des préjugés, des stéréotypes. Et à une question qui est classique, qui va être posée régulièrement, est-ce que vous accepteriez qu'un président de la République soit juif en France ? Eh bien, au départ, c'est-à-dire dans ces années-là, on en est autour de 50%, et aujourd'hui à 90%. Donc quand on dit la France est antisémite, il faut tout de même se référer à ce genre de réalité.
Alors, tout cela jusqu'en... ce sondage date de 66, c'était un an avant un événement qui allait, dites-vous, marquer un tournant à la fois pour la communauté juive française et pour ses rapports, les rapports qu'elle entretient avec les non-juifs. C'est la guerre des six jours, c'est 1967. En quoi a-t-elle changé les rapports entre les Français juifs et non-juifs?
Alors d'abord, elle a changé, je dirais, la psychologie des juifs français et des juifs en général dans le monde, parce que les antisémites avaient pendant des décennies raconté que les juifs étaient incapables de se battre, comme ils étaient incapables du reste de faire de l'agriculture, et l'État d'Israël montrait le contraire. Et la guerre des six jours a été gagnée donc si rapidement il y a eu une certaine fierté de la part des juifs, certainement une fierté qui consistait à dire, vous voyez, nous savons nous battre nous aussi. Mais en France, cela correspondait aussi avec l'arrivée massive, quelques années plus tôt, des juifs d'Afrique du Nord, 150 000 juifs d'Algérie qui arrivaient, ceux qu'on appelle les séfarades, et eux-mêmes n'ont pas tout à fait les mêmes comportements que les juifs de la métropole. En effet, les séfarades sont habitués dans l'univers colonial algérien, etc., à vivre en communauté, à s'identifier les uns par rapport aux autres, alors que les juifs en métropole, eux, avaient plutôt tendance à se fondre dans la main. Alors, quand ils arrivent, on va assister à une nouvelle visibilité du monde juif, avec les kippas, les boucheries cachères, etc. Et la guerre des six jours n'a fait que renforcer par conséquent cette affirmation identitaire.
Oui.
Et puis il y a évidemment la politique. Alors la politique du général de Gaulle.
Là, elle change complètement. Vous rappelez qu'effectivement, que jusqu'en 67, la France était l'allié le plus fidèle, le premier allié d'Israël. C'est avec des avions français, d'ailleurs, que se sont faites les opérations de la guerre des six jours, avec des Mirages, ce sera plus tard les Américains. Mais à l'époque, c'est la France. Or, brusquement, il y a un changement. Le général de Gaulle condamne l'attaque, celui qui a pris l'initiative, bon, même si on discute de la chose, mais enfin, c'est-à-dire l'État d'Israël, et explique sa position en employant une formule célèbre dont tout le monde se souvient. C'était dans une conférence de presse le 27 novembre 1967.
L'établissement d'un État d'Israël soulevait à l'époque un certain nombre d'appréhensions, et certains même redoutaient que les Juifs, jusqu'alors dispersés, mais qui étaient restés ce qu'ils avaient été de tout temps, c'est-à-dire un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur, n'en viennent à changer en ambition ardente et conquérante les souhaits très émouvants qu'ils formaient depuis 19 siècles l'an prochain à Jérusalem.
Un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur. En fait, c'est l'essentiel de ce qu'on a retenu d'une très longue conférence de presse où il expliquait sa politique. Et on a même accusé le général de Gaulle, par ses mots, de s'être montré antisémite.
Je ne pense pas du tout qu'il l'ait été. Mais cette formule était extrêmement ambiguë. Dire d'un peuple qu'il est sûr de lui, dominateur, ce n'est pas forcément péjoratif. Mais il n'avait pas dit le peuple israélien. Il a dit le peuple juif. Alors, beaucoup de juifs ont réagi en disant, tiens, peuple juif, alors ça veut dire que tous les juifs forment, à travers le monde, dans la diaspora, une seule entité qui pense de la même façon. C'était en revenir à cette idée des antisémites, du complot juif international. Et l'expression, me semble-t-il, a été malheureuse, mais elle n'exprime pas, de la part du général de Gaulle, un antisémitisme. Mais sa politique, effectivement... A-t-elle changé? Beaucoup d'observateurs, beaucoup de spécialistes disent non, elle n'a pas changé. C'est parce que l'État d'Israël a pris cette initiative. Quoi qu'il en soit, ce qui est arrivé, c'est que progressivement, il y a eu une sorte de désenchantement, si vous voulez, parce que l'opinion française a été pro-israélienne. Elle est encore, du reste, au moment de ce discours du général de Gaulle. Quand on voit les sondages, il est désavoué par l'opinion. Seulement, progressivement, comme les choses n'ont pas changé, c'est-à-dire puisque il y avait désormais des territoires occupés et que l'opinion, suivant ses représentants, a estimé que Israël ne faisait pas ce qu'il fallait faire pour aboutir à la paix, alors c'est vrai que l'opinion française, peu à peu, s'est détachée de l'opinion israélienne. Et ce que j'appelle le malaise entre les juifs en France et les non-juifs vient certainement de là.
Mais ça ne veut pas dire qu'elle est antisémite. On peut être contre la politique d'un État, sans bien entendu l'assimiler, cette politique, à l'ensemble du peuple israélien, de la population israélienne, et à la plus forte raison, du peuple juif. On y reviendra, Michel Vidocq. Ce qui est quand même intéressant, c'est qu'à cette époque, vous l'avez dit tout à l'heure, d'abord les juifs, beaucoup plus qu'ils ne faisaient avant, les juifs de France s'identifient de plus en plus à la politique israélienne.
Oui, parce que certainement, ils sentent que l'État d'Israël est isolé. Puisque d'abord, ils sont français et ils ont pu apprécier que depuis la fin de la guerre, depuis la naissance de l'État d'Israël, l'État français, la République française, a été le premier soutien, par conséquent, à l'État d'Israël. Et en voyant que, à partir de 1967, ce sont les États-Unis et non plus la France qui soutient Israël, du même coup, les Juifs en France se sont sentis en désaccord avec leur gouvernement. Mais la difficulté de notre conversation, c'est que quand on dit les Juifs en France, on généralise et que, comme les autres Français, il y a toutes les opinions, n'est-ce pas, parmi eux. Mmh. Donc, c'est toujours très délicat de parler de groupes minoritaires.
En tout cas, ces Juifs de France, dans l'ensemble, ne supportent plus non plus quelque chose qui dure depuis des années, et donc qu'on a évoqué au début de l'émission, c'est l'occultation sur le passé. Or, il se trouve que ces années-là, ces années 70, juste après la guerre des Six Jours, eh bien, le cinéma, avec Le Chagrin et la Pitié, de Marcel Ophüls, 71, l'histoire avec le livre très important de Robert Paxton sur la France de Vichy, où il démontre que l'État français de l'époque ne s'est pas vu imposer sa politique antisémite par les Allemands, mais qu'il en a pris l'initiative. Tout ça, évidemment, ça fait que on apprend, on découvre au fond ce qui a été caché pendant 20 ans, et cela alors que les Français, alors que le gouvernement français continue de refuser d'admettre la responsabilité de l'État dans le génocide, et même il va beaucoup plus loin avec Georges Pompidou. Eh bien, en 1971, Georges Pompidou amnistie un milicien, des responsables de cette politique antisémite, Paul Touvier, une décision que justifie Georges Pompidou quelques mois plus tard dans une conférence de presse.
Notre pays, depuis un peu plus de 30 ans, a été de drame national en drame national. Allons-nous éternellement entretenir saignantes les plaies de nos désaccords nationaux? Le moment n'est-il pas venu de jeter le voile, d'oublier ces temps où les Français ne s'aimaient pas, s'entre-déchiraient et même s'entre-tuaient? Et je ne dis pas ça, même s'il y a ici des esprits forts, par calcul politique, je le dis par respect de la France.
Alors ces propos de Georges Pompidou, on les retrouve dans votre livre, Michel Vinocq, et vous rappelez d'ailleurs que justement, au fond, l'effet de cette justification de l'amnistie de Plouvier a provoqué d'ailleurs, ça a provoqué l'effet inverse de ce que cherchait Pompidou, oui. C'est-à-dire que au lieu, au fond, d'apaiser, d'oublier au nom de l'unité nationale, il fait qu'on a, on s'est mis à rechercher tout ce qui, au nom de l'unité nationale, avait été caché jusque-là.
Effectivement. Tout d'abord, dans ce discours, on voit bien la permanence de la position de l'État français depuis la libération, l'unité nationale. Refaire cette unité déchirée par la guerre, déchirée par la collaboration, etc. Et puis, indiscutablement, en graciant Touvier, que se passe-t-il? Il intrigue, et les Français se posent des questions. Mais qui sont ces gens? Mais... qui sont ces Français qui ont participé d'une manière ou d'une autre au génocide? De quoi s'agit-il?
D'ailleurs, chose extraordinaire, alors, vous le rappelez, je vous coupe une seconde, mais quand il l'a amnistié, personne ne s'en est rendu compte. Non, et ce n'est que quelques mois plus tard qu'un article, effectivement...
Voilà. Alors, on a recherché effectivement tout cela, et tout cela correspondait aussi à l'arrivée d'une nouvelle génération de jeunes juifs qui voulaient comprendre qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pendant la guerre? Quelle a été la responsabilité des Français? Et l'arrivée aussi, je dirais, des historiens. Parce que le travail des historiens a été capital. Bon, sans doute le plus important a été le travail de Paxton, qui en 1973, dans la France de Vichy, a montré que Vichy n'a pas attendu les ordres des Allemands, des nazis, pour prendre des lois anti-juives. Le statut de 1940, comme le statut des juifs de 1941, c'est une initiative de Vichy, et la participation de Vichy au génocide s'explique par le fait que Vichy a mis à la disposition des Allemands qui manquaient de moyens, la police française, pour procéder aux arrestations et à la déportation. Et cela, on l'avait complètement occulté. Et l'affaire Bousquet, c'est l'affaire...
Le
secrétaire général de la police de Vichy, oui. a organisé véritablement les grandes rafles de 1942. Et très curieusement, après la guerre, il y a eu, bien sûr, des tribunaux qui ont jugé tout cela. Bousquet est passé à travers. Vous savez qu'il n'a pas eu... En tout cas, il n'a pas été accusé pour cette action-là. Et il a été réintégré par conséquent dans la vie administrative et autres, de sorte qu'il a pu devenir le grand ami de François Mitterrand, un ami de François Mitterrand, et que tout cela a été extrêmement troublant. Donc c'est vrai que la vérité est apparue à émerger par étapes, peu à peu, par le travail à la fois des historiens et par la demande sociale, par la... Je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement.
Et cela, en même temps, c'est très étrange, Michel Vinocq, que se développe quelque chose qui était resté parfaitement marginal, qui existait depuis la guerre, vous le rappelez aussi, c'est le négationnisme, cette volonté de nier les faits, la réalité. C'est l'affaire Forisson qui, dans les années 80, va prendre une ampleur considérable. Et au moment où la vérité apparaît, on est en train de la nier d'un autre côté avec les négationnistes.
Oui, c'est vrai, parce que... le négationnisme, c'est-à-dire la négation du génocide, au fond. Il était lié, sans aucun doute, à l'existence d'Israël. Et si l'on arrive à prouver que le génocide n'a pas eu lieu, qu'il n'y a pas eu de chambre à gaz, etc., ça veut dire que l'État d'Israël perd sa justification. En fait, il avait une autre justification qui était historique et très antérieure, mais peu importe. C'était une façon de combattre Israël que de dire le génocide n'a pas eu lieu. Alors, on a commencé par un détail concret. Je dis un détail, évidemment, volontairement, en pensant à la remarque de Jean-Marie Le Pen, n'est-ce pas, quand on en a parlé, il a dit c'est un détail. La question des chambres à gaz. On a pris cette question parce que, à travers les chambres à gaz, on pouvait démontrer que on avait exagéré les chiffres, que ça ne se passait pas comme cela, et de proche en proche faire croire que la Shoah n'avait pas eu lieu. Et ce mouvement, c'est vrai, est troublant parce qu'il se passe au moment même, mais ça s'explique aussi au moment même où la France, l'opinion, les historiens, les étudiants, tout le monde s'intéresse à ce qui s'est passé réellement entre 1940 et 1944.
Quand vous citez le Front National, Jean-Marie Le Pen, vous évoquez ce point de détail, entre guillemets, dont il parlait. Est-ce qu'on peut parler d'antisémitisme en ce qui concerne le Front National, parce qu'il s'en est toujours défendu? C'est un antisémitisme larvé qui consiste à reprendre les vieilles ficelles d'un antisémitisme traditionnel. Bien entendu, qui ne peut pas s'exprimer comme avant la guerre, parce que désormais, il y a la loi qui interdit les propos racistes et antisémites. Mais il y a une façon de procéder par allusion, de dire les choses entre les lignes, qui fait que on a pu, à plusieurs reprises, évidemment, démontrer que ce Front National, sa presse en particulier, certains journaux, étaient restés dans une tradition antisémite.
Surtout quand ils condamnent d'autres journaux. Vous vous rappelez par exemple une chose, c'est que comme par hasard, on dit je ne suis pas antisémite, mais il y a trop de journalistes, il y a trop dans les médias, il y a trop de gens qui s'appellent Yvan Levaille, Jean-Pierre Elkabbach, Jean Daniel et Jean-François Kahn par exemple. Alors, de son côté, l'État continue encore pendant longtemps à nier sa responsabilité dans le génocide, ni De Gaulle, ni Pompidou, ni Valéry Giscard d'Estaing, ni François Mitterrand n'ont voulu la reconnaître, jusqu'à ce que Jacques Chirac le fasse solennellement à l'occasion d'une commémoration de la rafle du Vel'd'Hiv, le 16 juillet 1995.
Ces heures noires souillent à jamais notre histoire et sont une injure à notre passé et à nos traditions. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondé par des Français, secondé par l'État français. La France, patrie des Lumières, patrie des droits de l'homme, la France terre d'accueil, terre d'asile, la France, ce jour-là, accomplissait l'irréparable. Manquant à sa parole, elle livrait ses protégés à leur bourreau.
C'était Jacques Chirac le 16 juillet 95. Jamais un chef d'État français n'avait encore dit cela. Pourquoi avoir mis tant de temps à reconnaître une évidence?
Eh bien, parce que, pour beaucoup, Vichy, c'est une parenthèse. Et par conséquent, ce qui s'est passé, même le plus horrible, ce n'était pas la France. Difficile à soutenir comme thèse, mais il y a de très bons amis qui ne sont pas soupçonnables d'antisémitisme et qui ont été choqués par cette idée-là quand ils ont entendu ces paroles que nous venons d'entendre, parce qu'à leurs yeux, c'était pas la France. Oui, mais alors, si Vichy n'était pas la France, où était la France? Ben justement, elle était à Londres, n'est-ce pas? Où elle était dans les maquis. Ben, ah oui,
quand même,
oui. Alors, tout cela est vrai, mais il n'empêche que Pétain, il était bien à la tête de l'État français, c'est indiscutable.
Alors, on aurait pu croire qu'après ses propos, après la repentance aussi de l'Église, vous le rappelez, quelque temps plus tard, en 97, il en aurait cessé de toucher, de menacer les Juifs de France. Or, pas du tout, voilà que depuis quelques années, on voit se multiplier les profanations de cimetières, de synagogues, des attentats physiques contre les Juifs, etc. Et vous dites que là, il ne s'agit plus du tout du même antisémitisme. Il vient d'ailleurs, il vient notamment, tout simplement, du conflit du Proche-Orient, Michel.
Oui, c'est indiscutable, bien entendu. Le vieil antisémitisme n'est pas complètement éradiqué. Il sera toujours possible de le voir s'affirmer dans telle ou telle occasion. Mais il n'empêche que ce à quoi on a assisté depuis 3-4 ans, c'est évidemment un écho de ce qui se passe au Proche-Orient. Là, c'est, on a pu le dire, l'importation de l'intifada. Et cela vient d'une minorité, puisqu'il ne faut pas certainement pas incriminer la minorité arabo-musulmane en France, mais une minorité qui, elle, n'est pas intégrée, qui ne trouve pas sa place, qui n'a pas trouvé sa place, qu'on appelle exclus, qu'on désigne comme des exclus, et qui est d'autant plus sensible par conséquent à une propagande qui vient d'ailleurs, à une propagande islamiste, à une propagande antisémite, qui l'entraîne dans une radicalité qui est une manière pour elle de révolte et de rébellion.
Mais dont certains diront qu'elle trouve au fond son terreau dans la politique même du gouvernement israélien. Alors
oui, bien sûr. Mais on l'a dit et répété, il faut distinguer entre la critique du gouvernement israélien, quel qu'il soit, et d'autre part, l'antisémitisme. Celui qu'on attaque dans la rue en France parce qu'il est juif, ou la synagogue ou l'école juive que l'on va incendier, franchement, quelle est la responsabilité de ces gens dans une politique précise d'Ariel Sharon? Il y a là quelque chose d'abominable. C'est bien ça le racisme, c'est de généraliser à partir d'un cas précis et de dire ils sont tous coupables.
Oui, mais en même temps, vous le remarquez vous-même d'ailleurs, vous pouvez pas le faire dans ce livre parce que l'événement est trop récent, avec la prise d'otage de journalistes français en Irak, on a vu les deux communautés réagir exactement de la même manière. On voit beaucoup de gens condamnés, justement, de toute origine, condamnés ces attentats. Est-ce qu'on peut véritablement parler, sous prétexte qu'il y a plus d'attentats antisémites en France, d'une augmentation de l'antisémitisme en général dans l'opinion publique, Michel Vinocq?
Vous savez, c'est difficile à préciser, mais nous avons quand même des sondages. Et en particulier, je donne le résultat d'un sondage très intéressant qui portait sur la question juive, sur les profanations, sur l'antisémitisme, et qui a été fait auprès de jeunes Français, des beurs, des jeunes musulmans et des Français non musulmans. Or, on s'aperçoit que la condamnation de ces actes atteint plus de 85% et même supérieure chez les jeunes musulmans que chez les autres. Par conséquent, il ne s'agit pas du tout de généraliser.
Mais est-ce qu'il y a une solution? En deux mots, il nous reste quelques secondes à peine.
Il y a une solution. Je ne sais pas, mais la première chose à faire pour ce qui est des Français, c'est évidemment d'intégrer au mieux ce qu'on appelle les exclus. Il faut que tous les Français se sentent Français, quelle que soit leur origine.
Et que s'arrête, dites-vous aussi à la fin de votre livre, l'amalgame entre justement Israël et les Juifs de
Exactement.
France. C'est tout ce qu'on trouve dans votre livre qui va bien au-delà de 1945, puisque ça commence avec l'émancipation des Juifs de France en 1789. Un livre donc dont je recommande la lecture, La France et les Juifs, aux éditions du Seuil, et donc signé par Michel Vinocq, qui était mon invité aujourd'hui. À lire également Géographie de l'Espoir, L'Exil, Les Lumières, La désassimilation, un livre publié au printemps dernier chez Gallimard par Pierre Birnbaum, qui est également un grand spécialiste des relations entre la France et les Juifs. Vous pouvez retrouver ces références en contactant le service des relations auditeurs, en composant le 3230, puis en tapant la touche 1, 34 centimes la minute, ou en consultant le site de